Elijah, numéro 12. Toute vallée sera élevée.
Nous parlons encore d'Élie comme d'un symbole prophétique. Élie déclara à Achab qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans, sauf sur son ordre.
Élie le Tishbite, qui était l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : L'Éternel, Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. 1 Rois 17:1.
Le Christ nous apprend dans le livre de Luc que la période de 3 ans était en réalité de 3 ans et demi.
Et il dit : En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est accepté dans sa patrie. Mais je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'une grande famine régnait sur tout le pays. Mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon vers Sarepta, ville de Sidon, chez une femme veuve. Luc 4:24-26.
Les 3 ans et demi se déroulèrent à l'époque d'Achab et de Jézabel, identifiant ainsi les 3 ans et demi prophétiques allant de 538 à 1798, lorsque la papauté, représentée comme Jézabel dans l'église de Thyatire, régna pendant la période sombre du Moyen Âge.
Néanmoins, j'ai contre toi quelques reproches. Tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, afin de les amener à se livrer à l'impudicité et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir de son impudicité, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit, et je jetterai dans une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Apocalypse 2:20-23.
Le délai pour se repentir de Jézabel fut de 3 ans et demi au jour d'Élie et de 3 ans et demi prophétique de 538 à 798 durant les âges sombres de la persécution papale. La punition infligée à Jézabel et aux rois d'Europe qui se sont prostitués avec elle consistait à être jetés sur un lit de tribulation et comprenait la mort de ses enfants. Il y avait, durant les âges sombres, des âmes fidèles qui avaient elles aussi été jetées sur un lit de tribulation, mais elles vivraient. Une fois jetés sur le lit de tribulation, l'issue, la vie pour les fidèles ou la mort pour les infidèles, dépendait de leur œuvre. Le lit de tribulation des fidèles produisait la patience et la vie. Leur lit de tribulation devait cesser vers la fin des 3 ans et demi, juste avant qu'Élie ne quitte Sarepta pour ordonner à Achab de convoquer tout Israël au Mont Carmel.
La persécution de l'Église ne se poursuivit pas pendant toute la période des 1660 ans. Dieu, dans sa miséricorde envers son peuple, abrégea le temps de leur ardente épreuve. En prédisant la grande tribulation qui devait s'abattre sur l'Église, le Sauveur dit « Si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Matthieu 24:22. Sous l'influence de la Réforme, la persécution prit fin avant 1798. La grande controverse, 266-167.
Le jugement du lit de tribulation à l'égard de la papauté frapperait de mort ses enfants. Mais le jugement du lit de tribulation contenait une promesse de vie pour ceux dont les œuvres démontraient leur fidélité, comme l'illustre la mort du fils de la veuve de Sarepta.
« Et il arriva, après ces choses, que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie fut si grave qu'il ne resta plus en lui de souffle. Et elle dit à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, ô homme de Dieu ? Es-tu venu vers moi pour rappeler mon péché à la mémoire et faire mourir mon fils ?» Et il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit de son sein, le porta dans une chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son propre lit. Et il cria à l'Éternel et dit, « Ô Éternel, mon Dieu, aurais-tu aussi fait venir le mal sur la veuve chez qui je séjourne, en faisant mourir son fils ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, et cria à l'Éternel et dit, « Ô Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint en lui. Et il reprit vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils vit. » Et la femme dit à Élie, « Maintenant je sais, par ceci, que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 1 Rois 17:17-24.
La veuve reconnut qu'Élie était un homme de Dieu, car la parole du Seigneur qui rendit la vie à son enfant était le mot « vérité ». Le processus en trois étapes par lequel Élie s'étendit sur le fils de la veuve fut compris par la veuve comme la « parole » dans la bouche d'Élie en tant que vérité. Le mot hébreu « emet » est traduit dans le passage par « vérité » et représente la puissance créatrice de l'alpha et de l'oméga. C'est le mot hébreu formé par la première, la 13e et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, et il représente la puissance qui peut ramener les morts à la vie. Les fidèles, tout comme les infidèles, dans l'espace de temps probatoire, représenté par les 3 ans et demi, ont reçu la sentence de lit de tribulation. La mort a été l'issue pour les enfants de la classe qui suivait la prostituée, laquelle se livrait à la fornication et enseignait les doctrines du paganisme. La vie a été accordée à l'autre classe, qui suivait les instructions d'Élie et croyait à la parole de vérité. La veuve avait obéi à l'ordre d'Élie d'aller lui chercher de l'eau et de lui donner du pain. Et son obéissance à la parole du prophète représente les fidèles durant l'âge des ténèbres de Thyatire. Il convient de noter que lorsque Élie ordonne à la veuve de le nourrir d'abord, puis de nourrir son fils et elle-même, ce qui est représenté, c'est qu'Élie est le premier à recevoir la nourriture. Il est le premier à recevoir le message, et ensuite l'Église. Il nous est dit que les œuvres des fidèles furent plus grandes à la fin qu'au commencement.
Et à l'ange de l'Église de Thyatire écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu ». Lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain poli. Je connais tes œuvres, et la charité, et le service, et la foi, et ta patience, et tes œuvres. Et les dernières sont plus nombreuses que les premières. Apocalypse 2:18-19.
Les fidèles manifestèrent de bonnes œuvres durant l'espace qui fut accordé à la papauté pour se repentir, mais leurs dernières œuvres furent plus que les premières. Alors que cet espace touchait à sa fin, le Christ envoya l'étoile du matin de la Réforme, qui commença l'œuvre de ne plus tolérer la papauté, laquelle avait enseigné à l'Église à se livrer à la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme des vases de potier, elles seront brisées en morceaux. Comme moi-même j'en ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:26-29.
Le Christ avait quelques reproches à faire aux fidèles, au début du délai accordé à la papauté pour se repentir, car ils avaient permis à Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais à la fin du délai, les fidèles cesseraient de souffrir que la papauté continue ses séductions.
Au XIVe siècle, surgit en Angleterre l'étoile du matin de la Réforme. John Wycliffe fut le héros de la Réforme, non pas pour l'Angleterre seulement, mais pour toute la chrétienté. La grande protestation contre Rome, qui lui fut permis de prononcer, ne devait jamais être réduite au silence. Cette protestation ouvrit la lutte qui devait aboutir à l'émancipation des individus, des églises et des nations. La grande controverse, 80.
La nourriture des serviteurs de Dieu, ce sont les doctrines ou le message qu'ils reçoivent. La fornication, c'est lorsque l'Église recourt au pouvoir de l'État pour imposer ses doctrines idolâtres. Dans le délai accordé à Jézabel pour se repentir, l'Église s'est enfuie dans le désert pour y trouver protection.
Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Et le serpent projeta de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 12:10-14:16.
Pendant la persécution de Jézabel et d'Achab, Abdias représentait la protection qu'offrait le désert à l'époque de la domination papale.
Et Achab appela Abdias, qui était l'intendant de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel, car lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, les cacha par 50 dans une caverne et les nourrit de pain et d'eau. 1 Rois 18:3-4.
L'œuvre d'Abdias, qui consistait à cacher les prophètes par 50 dans des cavernes, est le symbole du lieu au désert que Dieu avait préparé pour nourrir les fidèles, lesquels refusaient de se nourrir des doctrines de la papauté et refusaient aussi d'accepter la relation impie représentée par sa fornication avec les rois d'Europe. La période pendant laquelle Élie avait été envoyé chez la veuve de Sarepta, pour sa nourriture et sa protection contre Jézabel et Akab, était la période pendant laquelle l'Église se réfugia au désert, et le lieu que Dieu avait préparé pour eux était représenté par l'œuvre d'Abidias. La cachette d'Élie à Sarepta, appelée Zarephath en hébreu, signifie « purification ». Quand le délai accordé à Jézabel pour se repentir prit fin, Élie alla trouver Abdias et somma Akab de convoquer tout Israël au Carmel.
Et comme Abdias était en chemin, voici, Élie le rencontra. Il le reconnut, se prosterna le visage contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va, dis à ton seigneur, voici, Élie est ici. » 1 Rois 18:17-18.
Le séjour d'Élie chez la veuve de Sarepta symbolise l'âge des ténèbres. Dans le récit d'Élie et de la veuve, elle ramassait deux morceaux de bois, car elle était sur le point de mourir. Dans la prophétie, une veuve représente une église, et elle représentait l'église au désert qui était sur le point de mourir.
Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Apocalypse 3:1-2.
Elle ramassait deux bouts de bois et se préparait à mourir quand Élie l'interrompt.
Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné là à une veuve de te soutenir. » Il se leva donc et alla à Sarepta. Et lorsqu'il arriva à la porte de la ville, voici, une veuve était là, ramassant des morceaux de bois. Il l'appela et dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et comme elle allait en chercher, il l'appela et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle dit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas de galette, mais seulement une poignée de farine dans une jarre, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois afin d'entrer et de le préparer pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, puis nous mourrons. » 1 Rois 17:8-12.
La veuve de Sarepta ramassait deux bâtons. La veuve représente les fidèles à l'époque de Jézabel. Son fils représente ceux qui, au cours de l'histoire de Thyatire, sont morts avec la promesse d'être ressuscités lors de la première résurrection.
« Et je vis des trônes, et ils s'y assirent, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent achevés. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20:4-6.
La veuve représente également les quelques personnes de Sardes qui étaient dignes et ont reçu des vêtements blancs.
Tu as même à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera lui aussi revêtu d'un vêtement blanc. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:4-5.
Ceux de la quatrième église de Thaïtiens, qui sont morts fidèlement, représentés par le fils de la veuve, ont reçu des vêtements blancs au cinquième sceau.
Et lorsqu'il eut ouvert le cinquième sceau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils maintenaient. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Il fut donné à chacun d'eux une robe blanche, et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être tués comme eux soit complet. Apocalypse 6:9-11.
Les martyrs de l'âge des ténèbres ont reçu des robes blanches, et on leur a dit de se reposer dans leur tombe jusqu'à ce qu'un autre groupe de martyrs papaux soit mis à mort, comme eux l'avaient été. Ils avaient été assassinés par la papauté pendant une période de 3 ans et demi. Et on leur a promis que la papauté serait finalement jugée, mais pas avant qu'un second groupe de martyrs papaux ne soit assassiné, lors de l'imminente crise de la loi du dimanche. Sir White relie la demande des martyrs pour un jugement contre la papauté à deux passages du livre de l'Apocalypse.
Lorsque le cinquième sceau fut ouvert, Jean, le révélateur, vit en vision, sous l'autel, le groupe de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Après cela, survinrent les scènes décrites au 18e chapitre de l'Apocalypse, lorsque ceux qui sont fidèles et véritables sont appelés à sortir de Babylone. Apocalypse 18:1-5, cité. Manuscript Willis, volume 20, 14.
Apocalypse exempt, versets 1 à 5, présente les deux voix des versets 1 à 4. La seconde voix est l'appel à sortir de Babylone, et elle marque le début de la persécution liée à la loi du dimanche, lorsque le puissant mouvement du troisième ange appelle l'autre troupeau de Dieu à sortir de Babylone. Elle place également le passage du cinquième sceau à l'ouverture du septième sceau.
Apocalypse 6:9-11 cités. Ici des scènes furent présentées à Jean. Elles n'étaient pas la réalité, mais ce qui se produira à une certaine période dans l'avenir. Apocalypse 8:1-4 cités. Manuscript Releases, volume 20, 19:7.
Dans l'Apocalypse, chapitre 8, versets 1 à 4, le septième sceau est ouvert.
Et lorsqu'il eut ouvert le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint auprès de l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup d'encens, afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8, 4.
Les prières des martyrs du Moyen-Âge, qui, sous le cinquième sceau, réclament que Dieu fasse tomber son jugement sur la prostituée qui se livre à la fornication avec les rois de la terre, s'élèvent devant Dieu lorsque le septième sceau est ouvert. L'aspiration met en parallèle l'ouverture du septième sceau avec la deuxième croix d'Apocalypse 18, car c'est à la deuxième croix que Dieu se souvient de ses iniquités, et il double alors son jugement. Une fois pour les martyrs du Moyen-Âge, et une fois pour le bain de sang de la crise de la loi du dimanche.
Et j'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, versez-lui le double. » Apocalypse 18:4-6.
Les quelques-uns de Sardes qui n'avaient pas souillé leurs vêtements représentent ceux qui sont sortis de l'histoire de Thyatire, qui s'est terminée en 1798. Ils sont représentés par la veuve de Sarepta, une veuve qui se rendait en mariage en 1844.
La venue du Christ, en tant que notre souverain sacrificateur, dans le lieu très saint, pour la purification du sanctuaire, présentée dans Daniel 8:14, la venue du Fils de l'homme vers l'Ancien des Jours, telle qu'elle est présentée dans Daniel 7:13, et la venue du Seigneur dans son temple, annoncée par Malachie, sont des descriptions du même événement. Et cela est également représenté par la venue de l'époux aux noces, décrite par le Christ dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Le grand conflit, 426.
La veuve préparait son dernier repas avant sa mort lorsqu'Élie lui ordonna de le servir. Elle illustre les quelques fidèles de Thyatire, passant aux quelques fidèles de Sardes qui ramassaient deux morceaux de bois pour un feu. Les deux bâtons représentent les deux maisons de l'ancien Israël, qui furent foulées aux pieds par le paganisme, puis par le papalisme, mais devaient être rassemblées et réunies en un seul bâton, dans l'histoire de 1998 à 1844.
La parole du Seigneur me fut adressée de nouveau en ces termes. « Et toi, fils de l'homme, prends un bâton et inscris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis prends un autre bâton et inscris dessus pour Joseph, le bâton d'Éphraïm, et pour toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et joins-les l'un à l'autre pour n'en faire qu'un seul bâton, et ils deviendront un seul dans ta main. Et lorsque les fils de ton peuple te parleront en disant « Ne nous expliqueras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses ?» réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je prendrai le bâton de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je les joindrai à lui, au bâton de Judas. J'en ferai un seul bâton, et ils seront un dans ma main. Et les bâtons sur lesquels tu écris seront dans ta main sous leurs yeux. Et dormant par Gaxon, 10 heures, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai dans leur pays. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous. Ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus du tout divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs abominations, ni par aucune de leurs transgressions.
mais je les délivrerai de toutes leurs habitations où ils ont péché, et je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera roi sur eux, et ils auront tous un seul berger. Ils marcheront aussi selon mes ordonnances, ils observeront mes statuts et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, où vos pères ont habité. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai encore avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai. Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera aussi avec eux. Oui, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que moi, le Seigneur, je sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ézéchiel 37, 15, 28.
Lorsque Élie quitte Sarepta pour convoquer Achab et tout Israël au mont Carmel, l'église veuve qui s'est enfuie dans le désert rassembla deux bâtons pour le feu qui purifie la veuve en vue des noces du 22 octobre 1844. Le rassemblement des deux bâtons est le rassemblement du mouvement millérite qui s'accomplit durant la dernière période de 65 ans identifiée dans Ésaïe 7. Le royaume du Nord a subi la malédiction de Moïse de 703 siennes Ivash Prepsucet Vimsam Paketrova 18. Et le royaume du Sud a subi la même malédiction de Soinavit Atimpan Prohom jusqu'en Moem 1840 Katrevet Tatan. En 1844, les descendants spirituels de ces deux nations littérales furent rassemblés en un seul bâton, ou en une seule nation.
À tout le moins, Ézéchiel définit les deux bâtons comme deux nations qui deviennent une seule nation.
Car la capitale de la Syrie, c'est Damas. Et le chef de Damas, c'est Rezin. Et d'ici 65 ans, Éphraïm sera brisé, de sorte qu'il ne sera plus un peuple. Et la capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Et le chef de Samarie, c'est le fils de Remalia. Si vous ne croyez pas, assurément vous ne serez pas affermis. Ésaïe 7, 8, 9.
Si nous ne croyons pas à la prophétie des 65 ans, nous ne serons pas établis. Nous continuerons de présenter le symbolisme d'Élie dans le prochain article.